cette planète, des hommes qui sont capables d'inverser la fatalité, de changer le sort d'un petit bout du monde. Et c'est le cas de notre invité du jour, Olivier Béra, bonjour.
Bonjour. Alors Olivier Béra, vous avez fondé en 1993 à Madagascar l'Homme et l'Environnement, une ONG qui s'est spécialisée dans le développement durable et la préservation de la biodiversité en impliquant les populations locales défavorisées. Comment ça a démarré cette aventure ?
Et ça a démarré parce qu'à Madagascar, je dirais à l'époque, on parlait encore de protection des animaux, de pas couper la forêt. Mais Madagascar est un pays où les gens sont très pauvres. Et donc tous ces discours pouvaient pas vraiment marcher. Donc ça nous a obligés à réfléchir un petit peu avant l'heure. Maintenant c'est bien, c'est la mode, on parle de développement durable, enfin je pourrais dire. Mais donc c'est en fait la pauvreté des populations qui vivent dans la forêt, qui étaient obligées de détruire la forêt pour manger, je veux dire, qui nous a obligés à réfléchir autrement.
Et comment vous êtes arrivé à Madagascar ? Parce qu'il y a plein d'endroits dans la planète qui sont dans cette situation.
Madagascar est un peu extrême quand même entre la richesse, je veux dire, des plantes qu'on peut y trouver et la pauvreté des gens. Je suis arrivé un petit peu par hasard. Je suis un spécialiste de crocodile à l'origine. J'ai travaillé dans plusieurs pays en Afrique centrale, Congo, Gabon, Cameroun et après Madagascar. Et donc c'est là que je me suis rendu compte de la situation des gens.
Alors en effet, Madagascar est selon l'UNESCO l'une des priorités mondiales en termes de préservation de la biodiversité. Pourtant, l'île est malmenée, comme le prouve ce reportage de Lydia Benitzak.
Donc là, on se trouve sur la route entre Andassibé et le lac à Outre. On a comme spectacle dans les paysages ces grandes saignées rouges qu'on appelle les lavaques.
Oui, ce sont des figures vraiment typiques de Madagascar et ce sont comme des saignées dans la montagne, des saignées provoquées par l'érosion. Le climat est assez humide avec des pluies de mousson très violentes et qui ravinent le sol. La forêt était plus ou moins abondante avant. Elle a disparu du fait de l'occupation des sols par l'homme. Et l'érosion s'est accentuée. Et comme le relief est assez vallonné, l'eau de ruissellement provoque des petites fissures dans le sol qui s'approfondissent progressivement et qui forment ces figures très caractéristiques de Madagascar. Et tellement caractéristiques que le mot lavaka, qui veut dire en malgache creux, fossé, creux, est passé dans le lexique géologique. Et un lavaka veut dire a comme sens une saignée dans une montagne provoquée par l'érosion. C'est un vocabulaire général, un terme général de géologie. On a l'herbe sèche, donc de couleur grisâtre. On a les eucalyptus bien verts et ces saignées rouges, de latérite rouge qui ressortent. Donc c'est toute la terre, tout le sol malgache qui descend dans les rivières et à la mer. Vous voyez très bien que quand on survole Madagascar en pleine saison de mousson, les fleuves sont chargés de latérite rouge qui proviennent des versants et de la formation de ces lavaka, conséquence de la formation de ces lavaka.
Ça fait très longtemps que vous êtes guide et vous guidez les scientifiques dans les forêts et vous avez vu la dégradation depuis les dernières années.
Oui, tout ce qui sont proches du village, tout ce qui est proche de la route, c'est, ouais, ça se voit. La différence qui sont les forêts qui sont loin de la route.
Vous, ça vous inquiète ?
Oh, bien sûr, parce que les forêts, ça donne de la pluie. Si on continue à couper les forêts, donc ça devient désertique.
Et en fait, pour vous, c'est pas du tout les gens des campagnes qui sont responsables de cette situation, c'est plutôt les villes.
Ouais, c'est plutôt les gens qui savent lire et écrire. C'est les gens de la ville qui exploitent beaucoup de forêts, de bois. Ce que les gens, vous voyez là, les gens ils construisent des maisons, mais c'est pas tous les jours qu'ils construisent. C'est une fois dans 10 ans ou dans 5 ans qu'ils font les constructions. Au cas où ils ont des dégâts naturels, comme des cyclones. Donc dans ce cas-là, ils sont obligés de construire leur case. Leurs cases, elles sont toutes en bois ou en palmier de voyageurs. C'est pas en béton, c'est pas en briques aussi.
Olivier Bérard, c'est exactement contre cela que vous vous battez. On peut vivre de la forêt autrement qu'en la coupant?
On peut vivre de la forêt autrement qu'en la coupant, ce qu'on monte. Mais si vous voulez, déjà, il y a cette déforestation, elle est totalement ridicule quand vous la regardez. On parle du CO2, c'est un peu à la mode, là. C'est plus qu'à la mode, c'est l'actualité. Oui. Donc j'ai vu passer un prix à 17 euros la tonne. Dites-vous bien qu'un hectare de forêt malgache qui part en fumée, il y en a 200 à 300 000 par an, je veux dire, qui partent en fumée. Un hectare de forêt, ça rapporte moins de 200 euros aux paysans malgaches qui la coupent pour se nourrir. C'est-à-dire, si vous faites le calcul, on a à peu près 500 tonnes de CO2 dans un hectare de forêt. Vous faites le calcul fois 17, ça vous fait à peu près 8500 euros, je veux dire, qui partent en fumée. Pour un paysan qui va gagner 200, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans, je veux dire. Et ces forêts regorgent de plantes, 10 000 plantes endémiques à Madagascar, 13 000 en tout, des plantes médicinales, des plantes qui servent à faire des médicaments, qui sont exportées, je veux dire, pour l'industrie pharmaceutique. Et tout ça, ça part en fumée parce qu'il y a un petit décalage économique quand même.
Donc là, vous fustigez un petit peu la taxe carbone qui a été instaurée en France et qui va être effective en 2010.
Non, mais c'est super, je veux dire, exactement. Je veux dire, maintenant, j'espère qu'on va en faire quelque chose de bien. J'ai encore pas eu tous les détails là-dedans, mais je veux dire, c'est cohérent. Je veux dire, on peut pas laisser ces forêts partir en fumée. Je dirais, et on a un équilibre entre le nord et le sud. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est fini. On peut plus vivre isolé. Il y en a une mondialisation. C'est en route. On pourra pas séparer les deux mondes.
Alors, qu'est-ce que vous proposez justement à ces populations locales?
Oui, parce que vous intervenez dans trois endroits sur l'île qui ont chacun leur particularité, bien sûr, mais aussi un point commun, c'est donc lutter contre la destruction des forêts. Alors, vous, Iman, par exemple, ça va, je prononce bien.
Oui,
parce
que bien.
C'est difficile. Le malgache s'écrit d'une certaine façon, ça se prononce d'une. Alors, Wiman, par exemple, c'est une réserve expérimentale de 6 km² qui se trouve dans la forêt tropicale humide qui longe la côte est de Madagascar. Alors, cet endroit a beaucoup souffert, par exemple. Pourquoi ?
C'est une zone typique, je veux dire, de déforestation pour l'agriculture sur brûlis. Et quand on est arrivé, en fait, je vous avais dit, il y a une quinzaine d'années, j'ai créé l'ONG, mais on a fait beaucoup de stratégies, et c'est compliqué à mettre en œuvre. Donc on a essayé de créer ces réserves expérimentales en 2002 pour montrer que c'était possible de façon concrète. C'est bien beau les discours, mais il a fallu le faire. Et entre, si vous voulez, 1960 et 2002, on a des cartes de couverture forestier. Wiman a perdu 50% de son couvert forestier. Et quand vous voyez les gens en 2002 sur le terrain, les gens sont pauvres, pas d'accès à la santé, pas d'accès à l'éducation. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, c'est pas qu'ils sont enrichis avec du trafic ou de l'exploitation, c'est qu'ils ont bouffé leur capital. Je dirais, ils se sont appauvris et ils ont de moins en moins de capital.
Donc, quand vous dites, ils ont bouffé leur capital, ils l'ont bouffé eux-mêmes ou on l'a bouffé pour eux?
Ben, ils l'ont bouffé eux-mêmes, mais je dirais, ils ont coupé la forêt pour faire du riz. Donc, si vous voulez, ils ont bouffé leur capital, parce que si vous regardez au niveau carbone maintenant, ça valait 8500 euros à l'hectare, rien que pour le carbone, sans parler de la biodiversité qu'il y a dedans, et ils ont claqué ça pour avoir 200 euros. Je veux dire, donc c'est ça qui colle pas.
Quand vous dites pour faire du riz, c'est-à-dire que l'idée, c'est de couper la forêt pour faire du riz, pour pouvoir manger, quoi.
Les gens n'ont pas d'autres techniques agricoles que celle-là. Ils coupent la forêt, ils la brûlent, et c'est les cendres de la forêt qui font l'engrais pour le riz. C'est leur seul système de culture
traditionnelle. Le riz est très utilisé d'ailleurs sur tout le continent africain, un peu partout.
En Amérique du Sud également, en Asie du Sud-Est. Mais quand vous avez des Indiens d'Amazonie qui sont dans la grande forêt et qui vont faire 10 km avant de refaire un autre brûlis, il y a très peu de population humaine, ça marche. À Madagascar, avec une croissance démographique très importante, ça ne marche plus, il n'y a plus assez de forêt, cette forêt est trop fragile. Le système est très bien et très intéressant, mais là ça ne peut plus marcher.
Donc on impacte la forêt et la faune.
La faune qui est très riche dans cette région.
Qui est aussi particulièrement intéressante. Il y a des espèces endémiques en concentration dans toute cette
région. Absolument. Wiman n'avait pas de statut de conservation. C'était une forêt comme une autre. Quand on est arrivé, il y avait un contrat d'exploitation forestière, même qu'on a racheté. Il faut se dire que Wiman abrite 11 espèces de primates. Il y a 11 espèces de lémuriens, les grands indris qu'on entendait dans votre reportage tout à l'heure. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. On a 71 espèces de grenouilles à Wiman. C'est deux fois plus que dans tout ce qu'il y a en Europe réunis, je veux dire, sur ce site-là, et des plantes. Je veux dire, on a 134 plantes médicinales. Donc, c'est un véritable gaspillage de ce capital international, puisque la forêt qui part en fumée, c'est aussi du CO2 qui part dans l'atmosphère. Vous savez, 20% des émissions de CO2 qui sont faites à cause de la culture sur brûlis, à cause des forêts qui partent en fumée. Et ça, c'est un non-sens économique au niveau international.
Et alors, par rapport à ça, quelle réponse? Alors, vous envisagez de replanter 150 hectares d'une centaine d'espèces. Comment vous allez vous y prendre?
On est un petit peu plus loin que ça. On va assez vite. C'était aussi ça la démonstration. C'est-à-dire, il faut aller vite. On est dans l'urgence. On peut le faire. On vient de finir les plantations de 174 hectares, pour recréer un corridor forestier.
Sur votre site, ça date un peu, alors.
Voilà. qu'on revoie.
C'est plus
qu'on
vite que l'information.
On n'a pas le temps de s'occuper de tout. Heureusement, il y a des gens qui s'occupent de l'information. Oui, on a déjà replanté. Le but, c'est qu'on a réussi maintenant à valoriser des ressources forestières. On est parti, on a dit, cette plante, cette richesse, je veux dire, il faut arriver à la valoriser pour les gens. On a réussi, on a installé des alambics sur place, on produit des huiles essentielles par les communautés locales, qu'on a formées, je veux dire, aux pratiques de distillation. On a des produits qui sortent pour l'industrie cosmétique, pour l'industrie de l'aromathérapie, je veux dire, des produits qui sont relativement extraordinaires, qui créent des revenus. Les gens, maintenant, ils augmentent. On a un médecin sur place, je veux dire, qui est financé maintenant grâce à des ventes de carbone qu'on arrive à faire, de sages-femmes, et les gens ont des revenus, ils ont arrêté la déforestation, je veux dire à l'heure actuelle totalement, et ce qui nous permet de démarrer du reboisement. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ce soit arrêté avant de reboiser.
On imagine que la transition n'a pas dû être facile, parce que comment vous y êtes pris pour leur dire arrêtez de brûler, arrêtez de planter du riz, et vous allez voir, on va faire autre chose et ça va être merveilleux.
C'est pas facile du tout, bien évidemment. Donc, il faut de la tolérance au début. Il faut arriver à démontrer des choses. Il faut investir. Je veux dire, quand vous installez un alambic, ils vous prennent pour un fou. Je veux dire, de quoi ils parlent? Tu l'as vu, on a installé un petit lodge aussi pour faire venir des touristes. J'ai ce souvenir. Quand vous voyez les paysans du coin, vous leur dites on va faire venir des visiteurs. Ils vous regardent et disent attends, mais les gars, ils ont accès à la ville. Pourquoi ils vont venir s'emmerder dans la forêt? Je veux dire. Mais ça fonctionne. Il faut du temps. Je veux dire, là, on arrive, il nous faut à peu près 5 ans. Et malheureusement, ils ont vu beaucoup de projets où on leur dit, on leur fait des promesses. Il faut arriver à leur montrer. Mais après, c'est très, très simple. Je veux dire, quand vous les payez pour des produits forestiers, vous leur donnez un cahier des charges de production durable, de dire, OK, il ne s'agit pas de couper l'arbre pour ramasser les feuilles. Donc, vous avez des cahiers des charges qu'on fait certifier. Après, ça fonctionne. C'est une question économique, tout simplement.
Il faut du temps aussi pour la forêt, puisque vous estimez qu'il va falloir 80 ans pour recréer ce qui a été détruit.
On espère aller plus vite. Vous voyez comment ça marche. Mais c'est vrai qu'on a des très bons résultats de croissance. C'est surprenant parce que des arbres à croissance relativement lente, tels que des palissandres, on a replanté. Et maintenant, on a des arbres qui font 1,50 m au bout d'un an et demi. Donc finalement, la forêt reprend plus vite que prévu.
D'équilibre dans ce vieux monde de malheur. Avant de croire juste Dieu, faire pas de justice pour les jeunes, la misère pour les vieux, le calme de la nuit froide. Tout au mieux, il doit y avoir une réponse, ça je le sais bien. Il faudra se battre, c'est bien sûr. C'est le tolère, je serai fort et dur à faire face pour tous et pour les miens. Les enfants seront des enfants. Les enfants seront des enfants. Les enfants seront des enfants. Il n'y a pas d'équilibre dans ce monde de malheur. Juste avant soi-même ou juste du mal. De justice pour les jeunes et la misère pour les vieux. Le calme de la nuit froide, tout au mieux. Il doit y avoir une réponse, je le sais bien. Il faudra se battre, ça c'est bien sûr. Même le tonnerre, je serai fort et dur. Face pour tous et les miens. Les enfants seront des enfants. Les enfants seront des enfants. Les enfants seront des enfants.
Laisse la force, Chao Boana, dans C'est pas du vent sur RFI, avec des paroles, tiens, d'Olivier Béra.
Eh oui.
La musique, c'est une autre de vos passions.
Oui, bah, comme tout le monde, on a fait des guitares, du rock'n'roll étant jeune. Quoi,
non, tout le monde n'a pas fait ça, mais...
Tout le monde a fait du rock'n'roll, moi je croyais.
Alors l'un des moyens de lutter contre la déforestation, c'est aussi, vous le disiez, de valoriser les ressources naturelles de la forêt. Et c'est donc ce que vous faites en vous appuyant sur les connaissances des populations en matière de plantes, que ce soit les plantes médicinales ou les plantes aromatiques.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de savoirs traditionnels. Et il y a des plantes, si vous voulez, si je schématise, je veux dire un peu simplement, quand vous avez une plante qui est cicatrisante, ses propriétés sont de régénération cellulaire. Dans les produits cosmétiques, dans la beauté, je veux dire, le gros problème, c'est quand même les rides. Et en fait, les rides, c'est le même principe. Si vous régénérez les cellules mieux, je veux dire, à ce moment-là, on arrive à de l'efficacité, je veux dire, de crème anti-rides. Il y en a qui sont... On travaille dedans, on le voit. Donc en fait, ce qu'on essaie de faire, sortir des médicaments sur le marché occidental, c'est très long, c'est très difficile. Donc on a des plantes, on est sur des plantes antivirale, donc sur une huile essentielle de sarrau dans l'Ouest. Donc en ce moment, ce serait quand même pas mal d'avoir une huile essentielle
avec la grippe H1N1.
Exactement. Donc ça, là, je suis en train de lancer les tests pour le démontrer. Donc ça va être pas mal. Mais le plus simple, ça a été de passer par l'industrie cosmétique, parce qu'il faut sortir ces nouveaux produits. C'est très très long. Il faut faire des tests d'innocuité. C'est ce que des plantes, je veux dire, on dit c'est bien les plantes, mais il y a des plantes qui sont extrêmement toxiques dans la nature. Donc c'est pas aussi simple que ça. Donc faut passer par tout un processus. Et c'est vrai qu'on a réussi à démarcher des entreprises cosmétiques, à les faire jouer le jeu avec nous, de se dire, tiens, il y a des plantes extraordinaires, d'arriver à les valoriser. Et elles ont joué le jeu. Elles ont joué le jeu de s'impliquer sur du long terme. Maintenant, on se rend compte, on a un regroupement de présidents d'entreprises cosmétiques à l'heure actuelle avec une vraie éthique, et je suis surpris parce que
vous vendez quand même aux plus grandes marques, hein. Vous faites un peu le grand écart entre les populations locales des forêts de Madagascar et les plus grandes marques de cosmétiques internationales. Oui, allez-y, vous pouvez les citer, hein, quand ils font du bien, faut les citer.
Oui, on a eu des gens très très bien. Je peux les citer parce qu'on a vu sur Envoyé Spécial, on avait un reportage sur Chanel qui s'est impliqué avec nous sur le site de Vuiman, qui s'implique, je veux dire, maintenant vraiment sur du long terme. Il y a beaucoup de choses qui sont très très bien faites. On travaille avec Yves Rocher sur une plante de l'Ouest malgache, je veux dire, qui est le sarrau, qui produit une huile essentielle qui est relativement extraordinaire. C'est un produit qui va sortir, j'étais chez Yves Rocher hier, qui va sortir en cosmétique en avril 2010. Je veux dire, donc attendez-la, mesdames, ça va être une crème expérimentale.
Alors, ça leur permet, ça leur permet quand même de compenser en carbone. Enfin, je veux dire, il y a, au-delà de l'intérêt des vertus du produit, c'est vrai que cette relation les intéresse aussi à d'autres titres.
Et c'est vrai que c'est nouveau, mais je veux dire, nous, on a, que ce soit Chanel, Yves Rocher ou les autres avec lesquels on travaille, ça a été extraordinaire parce que c'était vraiment une motivation des présidents, des directeurs de recherche, je dirais des collaborateurs, pour le faire pour de vrai. Je veux dire, il n'y a jamais eu de com' dessus. Donc, vous n'avez jamais vu une campagne de communication de ces entreprises qui disait on fait ça à Madagascar avec l'homme et l'environnement. C'était un vrai fondement, je veux dire, des chercheurs d'abord et ensuite des présidents de se dire on va faire quelque chose de bien. C'est pas le but de communiquer dessus. Maintenant, on pourrait le faire. Après, il y a le carbone, mais c'est la même chose. Ça devient un peu la cerise sur le gâteau. Maintenant, on parle de carbone, on peut faire, puisqu'on a aidé à éviter la déforestation. On
aide à expliquer aux auditeurs, si, par exemple, Chanel, évidemment, quand il produit, il dégage du CO2, du dioxyde de carbone, et donc pour compenser ses émissions de carbone, il plante des arbres, par exemple, et comme les arbres aspirent le carbone, ça compense.
Exactement. Voilà, donc c'est un peu ça. Tout le monde conduit une voiture. Je veux dire, il y a des produits Chanel, ils sont livrés avec des voitures. Ça émet du CO2. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de trouver des voitures qui n'émettent pas de CO2, mais en attendant, c'est vrai que si on évite ces 20% de déforestation, si on replante des arbres, un arbre pour se construire, il utilise du carbone, du C, je veux dire, et dans le CO2, il y a du C, et donc l'arbre, il rejette de l'oxygène, de l'O2, et il garde le C pour faire son corps, ses racines, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive à capturer avec les reboisements.
Alors, on était en train de parler, vous parliez du sarrau. Alors justement, je voudrais qu'on revienne un petit peu à ce sarrau qui est un outil clé du développement de toute une région, finalement.
En fait, oui, on a fait les réserves expérimentales, mais elles font 2000 hectares, 1500 habitants. C'est un super laboratoire grandeur nature. Maintenant, on essaie de voir si on peut dupliquer. On espère travailler avec l'industrie cosmétique dans son ensemble, en France en particulier, qui est très sensibilisée au sujet. Et là, on a fait un test sur une plus grande zone qui fait 50 000 hectares, je veux dire, sur lequel, et on a cherché cette plante. Donc là, on a sorti ce fameux sarrau, je veux dire. Et on arrive à créer des revenus pour les gens. Et là, on est loin, on est vraiment loin. Je veux dire, on est au 21e siècle. Je veux dire, là-bas, on ne sait pas où on est. Vous avez le premier infirmier qui se trouve à 50 km à pied. Je veux dire, il n'y a aucun accès routier. Là, je viens d'y aller, on vient de faire le tour un petit peu. On a 20% des enfants qui sont inscrits à l'école primaire. Il y en a à peu près la moitié qui y vont. Comment peut-on être au 21e siècle avec des communautés sur 50 000 hectares, je veux dire, où la forêt part en fumée, où il y a 10% des enfants qui vont à l'école, où il y a zéro accès à la santé? C'est pas acceptable. Encore une fois, surtout que la traduction de cette pauvreté, c'est des feux, c'est du carbone, c'est du CO2 qui part dans l'atmosphère. Et il y a aussi des plantes. Donc ce sarro, comme je disais, antiviral, je veux dire, qui va servir, qui a plein de propriétés de régénération cellulaire et tout ça. Si ça brûle, je veux dire, c'est l'humanité entière qui a perdu ses ressources génétiques.
Alors justement, le sarro et les autres huiles essentielles que vous fabriquez à partir des plantes de Madagascar, ce sont évidemment les populations malgaches à l'origine, hein, qui connaissent les vertus de ces plantes. Alors vous faites très attention dans vos règles de commercialisation à respecter la propriété intellectuelle des populations locales.
Bien sûr, il y a tout un mélange, un amalgame qui est souvent fait entre la biopiraterie et la valorisation des ressources naturelles. Il y a biopiraterie souvent, je veux dire, on a des grosses sociétés.
Alors, faut expliquer biopiraterie, ce que c'est.
Mais vous avez des sociétés japonaises, par exemple, à l'heure actuelle. Il y avait une société belge il y a quelques années qu'on a réussi à arrêter, qui va venir voir les chamans, ceux qui détiennent le savoir traditionnel. Et vous avez quelqu'un, par exemple, qui utilise une poudre pour mettre sur le village pour protéger du soleil. Et vous avez des sociétés qui n'ont pas de scrupules, qui vont déposer un brevet là-dessus et qui vont dire eh ben voilà, c'est nous qui avons découvert ça, plus personne n'a le droit de l'utiliser à part
ça nous. Ça nous appartient.
Exactement, alors que c'est du savoir traditionnel. Donc nous, on prend bien garde. Après, il faut valoriser les ressources, comme je vous disais, c'est la seule solution pour que les gens y trouvent un intérêt à la préservation de la biodiversité, mais il faut le faire correctement, il faut le faire d'abord durablement par rapport à la ressource, et ensuite respecter ce savoir traditionnel. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on répertorie et on publie. Parce que souvent, les gens, ils n'ont pas publié, c'est du savoir verbal qui est évolutif, donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on publie.
On fait ça, une trace de
l'origine. Vous avez une trace, je veux dire, donc après ce n'est plus brevetable. Et donc ça, on le fait aussi avec nos partenaires.
Alors Olivier Béra, dans l'actualité internationale, hein, ça ne vous échappe pas, même peut-être au fin fond de vos forêts, il y a l'Assemblée générale des Nations Unies actuellement à New York. Et hier, dans ce cadre, il y a eu la première réunion de haut niveau sur la contribution des forêts, justement, pour lutter contre le changement climatique. 70 pays ont participé, mais ils n'ont pas réussi. Décidément, ils n'arrivent pas beaucoup à se mettre d'accord en ce moment au niveau international, parce qu'il n'y a pas eu d'accord sur les sommes à engager pour préserver les forêts. Alors Michael Somare, qui est le premier ministre de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déploré le manque de volonté politique en précisant qu'il ne pouvait pas convaincre, évidemment, et c'est tout l'objet de votre travail aussi, hein, qui ne pouvait pas convaincre les populations de modifier leurs habitudes sans incitation financière. Comment vous voyez tout ça ?
Non, je pense que j'espère que le grand public va mettre pression encore. C'est vrai que nos politiciens sont trop frileux, mais ils sont frileux parce qu'ils sont aussi élus, je veux dire. Donc il faut que les gens, dans leur ensemble, réalisent ce qui est en train de se passer. Nicolas Hulot avait une très bonne, je veux dire, message là-dessus. On commençait à le critiquer, on disait, mais encore, comment il peut soutenir un nouvel impôt? Mais ce qu'il faut se dire, il l'a bien dit, je veux dire, là, attention, on n'est pas en train de préparer un nouvel impôt. Je veux dire, c'est changer nos modes de vie pour arriver à quelque chose, pour éviter la catastrophe. Si vous voulez, c'est les plus pauvres, mais même en Occident qui vont subir ça. Donc il faut que nos politiciens ils prennent leurs responsabilités, y compris leur responsabilité parfois de ne pas faire que ce qui fait plaisir au plus grand nombre. Je veux dire, parce qu'on a le sens politique au sens noble du terme, c'est dire on doit avoir une vision pour les populations. Ça sert à rien de faire plaisir aujourd'hui si dans 10 ans c'est une catastrophe économique, on va se retrouver dans Mad Max si on fait rien.
Alors c'est vrai que l'idée de l'impôt c'est un bel outil pour certains pays, mais pour Madagascar et pour beaucoup de pays du Sud, finalement, quel est l'outil qui vous paraît le plus important pour justement faire passer toute ce changement qui est nécessaire? Comment expliquer à ces populations la situation dans laquelle on est et la nécessité de prendre un virage pour essayer d'avoir un avenir durable, justement?
Il y a des choses que les gens y comprennent, mais il faut qu'ils aient le choix aussi. Oui, il faut qu'il y ait un minimum de choix. Quand on n'a pas accès à la santé ou à l'éducation, je veux dire, ce n'est pas possible, je veux dire, de prendre ces choix-là. Donc il faut que nous, on joue un rôle international là-dedans. C'est l'économie avant tout. C'est l'économie local, je veux dire, donc lié à leurs ressources, c'est ça qui est indispensable, il faut qu'on le fasse. Il faut aussi qu'on mette pas des barrières internationales économiques, je veux dire, il faut qu'on joue le jeu, on est sur la mondialisation, donc il faut qu'on valorise ces ressources auprès des gens. Après c'est très simple, je veux dire, ils sont pas plus bêtes que les autres, je veux dire, s'ils peuvent faire autrement, ils font autrement. Cette forêt, elle a de la valeur, je veux dire, il faut que les gens, ils la voient. Si pour nous cette valeur, eh ben c'est pas de CO2 qui part dans l'atmosphère, il faut qu'on joue le jeu d'aider les gens à ne pas le faire. Je veux dire, en France, je veux dire, on n'arrête pas de rouler en bagnole automatiquement du jour au lendemain, parce qu'il y a des contraintes économiques, il faut le temps pour le faire. Il faut qu'on accélère ça, et il faut qu'on accélère aussi le soutien. Il faut un investissement au niveau des communautés de base dans les pays en voie de développement. C'est pas possible autrement. N'importe quel chef d'entreprise, il le sait. Vous voulez qu'une entreprise démarre, il faut investir.
Faut un Olivier Béra par pays, quoi.
Il y en a, il y a des gens. Là, ce que vraiment j'espère, je veux dire, ressortir de ces expériences, on a réussi à montrer assez vite, je veux dire, qu'on inverse la tendance, même qu'on regagne, puisqu'on replante, je veux dire, maintenant des espèces, on reprend de la biodiversité. Je vois des petites ONG, j'étais hier avec des gens qui travaillent, deux femmes qui travaillent sur le Cambodge, qui font un projet de folie qui est assez extraordinaire. Elles sont toutes isolées là-bas au bord de la forêt avec des communautés locales. Bon, maintenant, il faut qu'on les identifie, qu'on leur file un coup de main. Ce que je veux faire, c'est prendre toutes ces entreprises qu'on a, on a compris comment elles marchent maintenant, aller les voir, les prendre par la main, voir les ONG et dire « Ok, on va vous mettre ensemble, vous avez besoin de revenus et ensuite on va faire de la durabilité de ce développement en valorisant les ressources des populations. »
Si vous voulez en savoir plus sur les activités d'Olivier Béra, vous retrouverez toutes ses coordonnées sur la page d'une émission du site www.rfi.fr. Merci Olivier Béra d'être passé dans C'est pas du vent.
Merci à vous de faire passer la bonne parole.
Demain, nous parlerons du retour à la nature dans les villes avec l'un des grands paysagistes français, Gilles Clément. À demain donc.
Même planète,
même heure.